Céline Picmal, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes gérante chez Comgest. On va parler avec vous de marché et de perspective. Pour commencer, un petit mot de votre vie de gérante. En septembre 2008, au moment de la faillite de Lehman Brothers, vous étiez où, vous?
J'étais à New York, donc je m'en souviens bien, au cœur de l'événement. Mais malheureusement, quand on vit un événement, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Et à l'époque, j'étais à une conférence UBS, au cours de laquelle on nous expliquait que c'était déjà le moment de réinvestir sur les marchés financiers, parce qu'ils avaient un tout petit peu corrigé au cours de l'été. Donc c'était perçu ce jour-là comme un événement qui pourrait être une occasion d'investir pour le long terme, alors que comme on le sait, on était au début finalement d'une longue dégringolade et qui ne s'est terminée que de nombreux mois plus tard. Donc ce que j'en ai retenu finalement, c'est qu'il fallait toujours se détacher d'un événement de court terme, prendre le temps de la réflexion, revenir à la maison au calme et par la suite se poser les bonnes questions et se dire effectivement est-ce que je dois faire quelque chose ou pas, mais ne pas réagir à chaud, parce que finalement ça n'aurait pas été pertinent à ce moment-là.
C'est un message qu'on peut transmettre à ceux qui sont sur les marchés financiers finalement depuis le début de la hausse, qui n'ont vu que la hausse des marchés.
Tout à fait. Donc prendre du recul, réfléchir, se poser et avoir en tête que ça ne peut être, ça peut parfois n'être que le début d'un événement plus important.
Alors 10 ans après, on est dans cet environnement de taux très bas, même si les taux ont remonté aux États-Unis. La croissance apparemment, la croissance économique est là. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet dont on parle de plus en plus, c'est le sujet de la guerre commerciale. Votre point de vue, qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été notable pour vous sur les derniers mois?
Alors effectivement, la guerre commerciale, c'est un point important, mais ce que je retiens des derniers mois, c'est que finalement, on avait beaucoup crié au loup et que rien n'est arrivé. Donc c'est un peu comme dans le conte mis en musique par Tchaïkovski, on vous dit, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, et rien n'arrive. Et donc finalement, aujourd'hui, quand je rencontre mes clients, ils me disent, écoute, Céline, tu nous as dit de faire attention. Mais ton fonds est en progression de 10% depuis le début de l'année, c'est formidable. Donc finalement, tu n'avais pas besoin d'être aussi prudente et donc on devrait être plus à l'aise et plus confiant. Et j'ai beaucoup d'investisseurs qui finalement ont un petit peu la poudre qui leur brûle les mains et qui disent bah, finalement j'ai raté la hausse. Ça serait peut-être le moment d'y remettre un coup. Et j'entends beaucoup un discours comme quoi on sera en 99 et puis que 99 c'est un bon moment pour investir sur les marchés parce que derrière il y a eu 99-2000. Et donc finalement ça serait quand même une idée pas si idiote que ça que de s'investir. Et moi ce que je retiens de ces derniers mois c'est que finalement je pense que ce qu'on est en train de vivre c'est tout simplement un double top qui a une formation de marché qui est assez classique sur les marchés. On a eu un premier top en janvier. Après, on a corrigé jusqu'en avril. Le marché américain s'est repris et a cassé ce top au mois d'août. Et donc, on est en train un petit peu de vivre techniquement ce double top. Alors, pourquoi est-ce que je dis que j'ai l'impression que techniquement, on est en train de vivre un double top? Parce qu'on a une hausse de marché qui est très fragile et qui n'est tirée que par une partie du marché qui est très faible. Je lisais un chiffre très intéressant. Aujourd'hui, le seul marché qui est en hausse depuis le début de l'année, c'est le marché américain, qui a progressé effectivement de 11%. Mais le marché mondial, il a progressé que de 3%. Le marché émergent, il est en baisse de 11%. Les marchés européens, ils sont en baisse de 3%. Et le marché japonais, il ne progresse que de 1,5% grâce à la hausse du yen, de 3%. Donc, il n'y a
Oui.
qu'un marché qui monte.
Et encore, oui, dans ce marché,
Et
c'est
dans
ça,
ce
c'est
marché,
ce qu'il y a.
vous avez 6 actions, donc les FANG, qui représentent 52% de la hausse. Si on les enlève, le marché américain, il est en hausse de 3%. Donc, on voit que c'est une micro-partie du marché qui tire la hausse. Et dans ce contexte-là, je me dis qu'il faut quand même être ultra vigilant. Et de l'autre
Alors,
côté,
en 2000, on aurait parlé de bulle, on aurait dit, ah oui, mais attendez, il y a une bulle, voilà, la dot-com qu'on a connue.
ouais.
Là, la réponse en général des uns et des autres, c'est de dire non, non, il n'y a pas de bulle parce qu'il y a du chiffre d'affaires, parce qu'il y a de l'activité, il y a de la croissance, donc on n'est pas dans une bulle. C'est ça,
Alors,
hein, souvent ce qu'on entend.
oui. Alors du coup, j'avais deux réponses à apporter à ce point-là parce qu'effectivement, il m'interpelle beaucoup moi-même. La première, c'est on dit beaucoup en termes relatifs. Tu comprends finalement par rapport aux obligations, les actions, c'est pas si mal. Alors déjà en termes relatifs, quand on regarde aujourd'hui les taux d'intérêt sur le 2 ans américain, on est à 2,8%. On est très biaisé par l'Europe, hein, mais aux États-Unis, on est à 2,8 sur le 2 ans américain. Sur le dividend yield, donc le coupon qui est rapporté par les actions américaines, on est à 1,8. Donc on est en dessous en dividende que ce que vous avez sur de l'obligataire d'État américain à 2 ans. Et c'est la première fois depuis 2007 que ça arrive. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc en relatif, aujourd'hui, ça pourrait faire du sens, d'aller vers du 2 ans américain. La deuxième chose sur la valorisation des marchés, c'est qu'on est quand même à 2,2 fois les ventes sur les États-Unis, donc on sait qu'on est très élevé. C'est plus haut qu'en 2000, c'est plus haut qu'en 2007, donc c'est quand même très très élevé. Et ça, je pense qu'il faut quand même ne pas l'oublier. Pourquoi? Parce que même si sur le court terme, la valorisation ne vous dit pas ce qui va se passer à 6 mois ou 1 an, ça vous dit que sur les 10 prochaines années, le marché américain ne va rien faire. Et c'est quand même un indicateur qui est extrêmement important. On parlait de 2008 tout à l'heure. De la même façon qu'on n'avait pas vu l'ampleur du problème en 2008, au début, quand il y a eu la crise de Lehman, en 2009, je me suis battue avec de nombreux clients qui m'ont dit: Céline, je veux tout sortir. Ils voulaient tous partir. Et je leur dis: mais regardez, vu les valorisations du marché, je ne sais pas si ça va rebondir dans 6 mois, 1 an, mais je sais qu'avec la valorisation actuelle, on va avoir un retour de marché supérieur à 10% au cours des 10 prochaines années. Mais à l'époque, personne ne voulait l'entendre. Aujourd'hui, je vous dis juste, avec la valorisation qu'on paye sur le marché, sur les 10 prochaines années, on va faire zéro. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête par rapport à des T-bonds qui rapportent du 2,8.
Alors ça,
Donc la valorisation, c'est important. Et puis après, vous me parliez des bénéfices.
Oui.
Et là aussi, je voulais en parler, parce que les attentes maintenant, avec l'élection de Trump et la baisse des impôts aux États-Unis, on attend une progression de 18% des bénéfices des sociétés américaines l'année prochaine. C'est un chiffre ultra élevé, 18%. Alors je sais que cette année, on a fait 18. On va faire 18 parce qu'on a eu un appel d'air énorme. Si vous payez plus d'impôts, ben forcément, vous gagnez plus. Mais l'année prochaine, on va avoir une base de comparaison qui va être beaucoup plus élevée. On va avoir un dollar fort qui va peser sur les comptes des entreprises. On va avoir des taux d'intérêt plus élevés qui vont peser sur les comptes d'entreprise. On a des salaires qui sont plus élevés aux États-Unis avec des problématiques de recrutement. Donc, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on peut arriver à cette mécanique de 18. Et la seule fois, encore une fois, je ne veux pas être pessimiste, mais quand même, la seule fois où on a eu des analystes qui attendaient 18, donc un chiffre ultra élevé, c'était en 2000. On sait tous que c'est pas ce qui s'est passé
Donc,
derrière.
ça veut dire qu'on a
Donc
la
voilà. Donc
mémoire
moi, je pense
courte et
qu'on est quand même un
que,
petit peu
voilà,
optimiste.
oui, on sait que les marchés ont souvent la mémoire courte. Finalement, on se pose aussi la question du rôle des banquiers centraux avec cette politique, ce quantitative easing, cette politique monétaire accommodante en français, où finalement il y a eu tellement d'argent déversé qu'on a eu, certains disent, une déformation de la valeur des actifs.
On a eu une déformation de la valeur des actifs et effectivement, on s'est habitué à être gavé de liquidités. Mais
Il faut investir.
là aussi, ce qui est important, c'est que cette liquidité est en train de baisser sa croissance. Donc la croissance est plus faible en 2019 et en 2020, la liquidité mondiale, elle se contracte. Et ça, c'est quand même un élément qui est très important parce qu'on a dit don't fight the Fed, mais c'est quand même un élément important. Et je pense, parce que si je me souviens de ce qui se passait en 2008, je me souviens même chez Comgest, on avait un grand débat en interne, inflation, déflation,
Oui.
c'était vraiment le sujet du moment. On est en 2018, plus personne ne parle d'inflation. Ça, c'est incroyable. Tout le monde va m'expliquer qu'on va être en déflation pour toujours, que c'est la situation japonaise, etc. Et ça m'inquiète, parce que là aussi, il y a des signaux qui nous disent, tiens, finalement, peut-être qu'il faudrait quand même faire un tout petit peu attention. Et pourquoi est-ce que la situation m'interpelle aujourd'hui? Parce que, d'un point de vue politique, on a des populistes de plus en plus au pouvoir. On l'a vu avec Trump qui a été élu aux États-Unis.
En
On le
Europe.
voit avec la crise italienne aujourd'hui. Quand le pont tombe à Gênes, on dit c'est de la faute de qui? C'est la faute de l'Europe qui nous a empêchés d'investir dans nos infrastructures. En Angleterre, on voit qu'on a des populistes. On voit que même en France, c'est quand même pas forcément évident. Et qui dit populisme dit finalement des pouvoirs politiques qui préfèrent donner de l'argent, donc du pain et des jeux, plutôt que de se soucier d'austérité monétaire. Et on a quand même un républicain qui est élu aux États-Unis qui met en place une politique socialiste.
Voilà, avec une dette qui est
Avec
explosive.
une dette explosive. Donc,
Oui.
du coup, dans ce contexte-là, il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a plus personne. Et donc, on met de la pression. Qu'est-ce qu'il fait M. Trump? Il met de la pression sur les banquiers centraux. C'est ce qui s'est passé à Jackson Hole cet été. Et donc, on met une pression sur les banquiers centraux. Donc, on ne sait pas si les banquiers centraux vont être capables, finalement, de lutter contre un pouvoir politique fort. Parce qu'on a des leaders forts.
Ça, c'est un vrai sujet,
Donc,
effectivement, de
ça, c'est un vrai
combat.
sujet qui me semble quand même très important avec une interrogation politique. Parce qu'avant, la politique n'était pas très importante pour les marchés financiers.
Ça a
Voilà.
changé le mot de la fin rapidement, du coup, est-ce qu'on peut investir quand même dans ces marchés ou pas?
Alors, mais il faut faire très attention, c'est tout. Voilà, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, gardez la tête froide et vraiment soyez ultra sélectifs, soignez votre portefeuille, prenez des sociétés qui ont peu de dettes, parce que dans un environnement où on peut avoir éventuellement des taux d'intérêt qui montent, de l'inflation, etc., peu de dettes, donc faites très très attention là-dessus. Investissez dans des sociétés qui sont avec des business models récurrents. Donc moi, finalement, les choses simples, consommation discrétionnaire, santé, télécom, des choses de base qui vont tenir sur la durée pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, vous aurez le temps d'attraper des pays émergents, de la Chine, de l'Argentine, de l'Inde, quand les choses se seront un petit peu calmées.
Merci beaucoup, Céline Picmal, d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.